Bonjour tout le monde. J'avais prévu, avant de commencer ma prédication, de m'excuser. Parce que dans mon calendrier, dans mon agenda, j'ai noté aujourd'hui que c'était la fête des mères. Et donc j'allais m'excuser de ce que la prédication ne sera pas sur les mamans. Mais heureusement, j'en ai parlé avec mon épouse juste avant de monter sur l'estrade. Et oui, mais ce n'est pas aujourd'hui la fête des mères. Donc, je ne m'excuse pas. Suis-je bon? Êtes-vous bon? Alors, pendant que vous cherchez la réponse, on va écouter un texte biblique.
Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui, et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »« Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu.
Êtes-vous bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Mais quand je pose la question « Êtes-vous bon ?», je me demande ce que vous avez pensé. Je pense que vous avez pensé « Ben, il faut que je dise non, parce que nous sommes sauvés par grâce. » N'est-ce pas? Mais en réalité, nous sommes en train de dire, mais je ne suis peut-être pas parfait, mais je ne suis quand même pas si mauvais que ça. Je n'ai pas fait trop de bêtises, je n'ai tué personne, ça on entend souvent, n'est-ce pas? Donc je suis relativement bon quand même. Est-ce que vous êtes dans cette catégorie-là? Moi, je me mettrai là-dedans, hein, pour être honnête. Je m'aurais mis là-dedans avant de préparer mon message. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Et nous voyons cet homme qui vient à courir jusqu'à Jésus, il se jette à genoux. Il a tout pour lui, jeune, riche, respectueux de la loi depuis son enfance. Il n'est pas arrogant, il est sincère. Et la première chose qui sort de sa bouche, c'est « bon maître ». Et moi, je pense toujours quand je lis, mais rien de plus normal d'appeler Jésus « bon maître ». Et la réponse de Jésus me choque. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Mais quand même, Jésus, hein, tu sembles être en train de dire que toi non plus, tu n'es pas parfait. Et nous savons que ça, ce n'est pas le cas, hein, n'est-ce pas ? Oui, Jésus est le seul qui n'a pas péché. Et puis c'est lui qui dit « Personne n'est bon, sauf Dieu seul. » On va y revenir. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Et cette question va traverser tout notre message ce matin. Donc soyez rassurés. Pierre a parlé des finances. Il a parlé des caisses à la sortie. Et puis Christophe prend le texte sur le jeune homme riche. Donc vous êtes en train de dire où on va y passer ce matin. Mais je ne vais pas parler d'argent. Je vais parler du fait que personne n'est bon sauf Dieu seul. Bon ou non? Voilà la question. Et c'est le miroir que Jésus nous tend dans cette question. Et nous allons voir ici 5 fausses idées de ce qu'être bon veut dire. Parce que l'homme riche ne ment pas et il dit « J'ai obéi à tous ses commandements depuis ma jeunesse. » Et c'est peut-être vrai puisqu'il n'est pas hypocrite. Mais c'est précisément ce qui rend la scène si dérangeante, n'est-ce pas, pour nous. Parce que nous faisons tous la même chose. Nous nous évaluons selon notre propre cri. Et voici les 5 cris que nous utilisons le plus souvent. Être bon, c'est ne pas faire le mal. C'est la définition la plus répandue. Je n'ai tué personne. Je ne vole pas. Je ne trompe pas ma femme. Autrement dit, c'est la bonté par défaut. L'absence de grands actes négatifs. Mais Jésus va plus loin dans le sermon sur la montagne parce qu'il parle de la colère non exprimée. Il parle du mépris. Il parle du regard de convoitise. Et ce sont déjà des péchés intérieurs. Être bon n'est pas l'absence du mal, c'est la présence active de quelque chose. Nous avons dans la Bible quelques exemples où le texte biblique dit que la personne est bonne. Noé, un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Job. Il y avait au pays d'Uz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Dans le Nouveau Testament, il y avait un homme appelé Joseph. C'est pas Joseph, le père de Jésus, mais Joseph d'Arimathée, un membre du grand conseil des Juifs. C'était un homme bon et droit. Nous avons aussi quelqu'un qui se considérait bon, qui se disait bon, mais qui ne l'était pas tant que ça, le pharisien qui priait au Dieu, « Je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. C'est moi le meilleur. » Être bon, ne pas faire le mal. Deuxième idée, c'est être justement meilleur que les autres. C'est le réflexe comparatif. Et c'est tellement utile, n'est-ce pas? C'est là où on se justifie le plus facilement. Parce qu'on ne se compare pas à Jésus, Dieu le Père. Ben, je ne suis pas parfait, mais au moins je ne suis pas comme tel ou tel. Et nous avons des images dans notre tête. Bon, merci Seigneur, je suis quand même, je m'en suis mieux sorti que lui, je m'en suis mieux sauter qu'elle. On est en train de faire la même chose que ce pharisien. Mais nous sommes tellement rassurés, n'est-ce pas, quand nous trouvons pire que nous, on dit, ça va alors, ça va aller, tout va bien se passer. Et nous avons du mal à obéir à ce que Paul nous dit. Paul nous dit, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Attention de dire amen trop fort, hein, parce que ça va vous revenir dans les oreilles après. Donc. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. J'aime cette traduction-là. Il y a une autre traduction qui dit « Considérez les autres comme meilleurs que vous ». Là, c'est encore plus difficile parce qu'on peut toujours juger d'après nos diplômes, d'après nos revenus, d'après notre position dans la société et dire avec raison « Je suis mieux placé qu'eux ». Mais considérez les autres comme plus importants que vous-même, ça veut dire que c'est Dieu d'abord et puis les autres. Et moi, je suis le serviteur de tous. Troisième manière de nous dire bon, c'est que je respecte les règles de mon groupe. Et ici, la bonté devient culturelle. Dans certains milieux, être bon, c'est voter pour les bonnes personnes, c'est avoir les bonnes opinions, c'est faire les bons gestes écologiques. Et dans certains de nos milieux évangéliques, on peut facilement dire qu'être bon, c'est prier. C'est lire sa Bible, c'est ne pas fumer ou aller trop dans les fêtes, c'est aller à l'église chaque dimanche. Et là, nous sommes dans le bon cadre et que ce que la société, il y a quelques décennies, c'était la norme et qu'il y avait beaucoup plus de monde dans toutes les églises qu'aujourd'hui. Parce que ils y allaient pour des raisons culturelles plutôt que à cause de leur foi personnelle dans le Seigneur. Mais nous avions l'impression que la société française, européenne, était plutôt bonne parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'église. C'est intéressant comme critère. Mais la bonne chose à faire n'est pas que ça. Quatrième, c'est avoir de bonnes intentions. L'argument de la bonne volonté. Et là, c'est assez puissant parce que, en réalité, c'est invérifiable. J'avais l'intention de le faire. Ça va alors. Tout va bien. Et Jésus nous dit, l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Mais nous lisons ailleurs que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Et ça, peut-être vous pensez aussi à vous-même, mais aussi à plein d'autres personnes, où nous sommes, nous nous classons comme plutôt bons et avec de bonnes intentions, mais où combien de fois ces intentions n'aboutissent pas dans la réalité. Plutôt bon, mais potentiellement bon, Dans la réalité, ce n'est pas toujours ça. Et nous disons que l'attention était bonne, même si le résultat ne suit pas. Par exemple, quelqu'un qui organise une fête d'anniversaire pour un ami, tout en oubliant que l'ami en question déteste les rassemblements et finit sa fête avec une crise d'angoisse. Ben, l'intention était bonne. Ou faire quelque chose pour soulager un collègue en donnant un coup de main pour son travail, mais n'ayant ni l'expérience ni les connaissances, on le fait mal et il faut tout refaire depuis le début. Mais l'intention était bonne. Et le dernier des cinq, et peut-être nous nous mettrons dans cette catégorie-là, avoir fait, accompli de bonnes choses pour Dieu. Et c'est le plus spirituel de notre liste de mérites, n'est-ce pas? J'ai prié, j'ai évangélisé, j'ai servi dans tel ministère, j'ai donné de l'argent, j'ai participé aux réunions. Et Jésus répondra à certains, dans ce cas-là, qui disent encore, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Il dira, « Je ne vous ai jamais connu. » Les actes pour Dieu sont importants, oui, mais ils ne remplacent pas la relation avec Dieu en priorité. Donc, ces cinq grilles que nous avons vues ont un point commun. Ils font de nous le juge de notre propre bonté. C'est nous qui fixons le seuil. C'est nous qui choisissons la référence. C'est nous qui décidons que nous avons passé le test. Ce serait bien pour les lycéens, les étudiants, si vous pourriez corriger vos propres épreuves, n'est-ce pas? On sauterait à 100%. Et c'est ce que nous faisons quand nous considérons comme bon. Mais encore, Jésus nous dit, personne n'est bon, sinon Dieu seul. Et je ne sais pas si vous vivez ça comme un jugement. Je pense que moi, je le prends premièrement comme ça. Mais en réalité, dans le contexte, je pense que Jésus veut que ce soit plutôt une libération. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Ça veut dire que tous mes essais de me comparer et dire, mais je suis pas si mauvais que ça, ça ne sert à rien. Parce que Dieu n'en tiendra pas compte. Il ne veut pas en premier nos efforts. Il veut notre amour. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Nous avons commencé notre culte ce matin. Le premier chant, c'était « Tu es bon, bon, bon ». Et puis on en a eu d'autres. J'ai pris des photos, mais je ne les sors pas maintenant. J'ai pris des photos des strophes que nous avons chantées qui parlent justement de la bonté de Dieu. Je me suis dit, si on continue comme ça pour la louange, je n'aurai plus de message à apporter. Tu es bon, Seigneur. Donc, qui est bon, selon Dieu? La Bible nous dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus, tous ensemble. il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Là, c'est dans Romains 3, mais c'est des citations des textes de l'Ancien Testament déjà. Même pas un seul. Ce qui veut dire, pas Noé, pas Job, pas Joseph d'Arimathée, et j'ajoute, pas Marie non plus. Et j'espère que je ne vous choque pas. Parce que en 1854, un pape a déclaré le dogme de l'Immaculée Conception, que Marie, la mère de Jésus, serait née sans péché. Donc, quand nous disons « personne n'est bon, sauf Dieu seul », il dirait « et bien sûr Marie ». Mais non, même Marie, que nous honorons pour cette place extraordinaire, ce privilège extraordinaire qu'elle a eu d'être la mère de notre Sauveur Jésus-Christ, même elle a prié « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Ce qui veut dire que Marie, elle avait cette humilité-là que nous sommes appelés à avoir aussi. C'est de dire, malgré tout ce que nous avons fait, malgré tout notre service, malgré tous nos efforts de faire ce qu'il faut, nous avons besoin de ce Sauveur qu'est Jésus-Christ. La bonté absolue, la bonté qui ne varie pas, qui ne se fatigue pas, qui n'a pas de mauvais jours, qui n'est pas conditionnelle, cette bonté-là n'existe que chez Dieu. Et le jeune homme riche, en disant qu'il accomplit les commandements dès sa jeunesse, affirme en réalité, je suis plutôt exemplaire, moi. Je fais tout ce qu'il faut. Mais si Dieu est bon, et Dieu seul, alors qui appelles-tu bon maître? Qui est vraiment Jésus pour toi? Bon maître, parce que Jésus lui renvoie la question, le miroir, de dire, comment tu te places comme bon? Il n'est pas en train de dire, moi je ne suis pas bon, mais il veut que le jeune homme riche puisse dire, aurait pu lui répondre, je t'appelle bon maître parce que tu es le Fils de Dieu. Tu es bon parce que tu n'as jamais péché. Mais il n'est pas capable, bien sûr. Donc c'est une libération, comme Jésus dit, personne n'est bon sauf Dieu seul. Ça veut dire que notre premier devoir n'est pas d'être bon. Dieu ne va pas nous dire d'être mauvais, hein? Ne me prenez pas mal. Hein? Parce qu'ailleurs, il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais ce n'est pas là que ça commence, n'est-ce pas? Ça commence en reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, tous mes efforts, toutes mes bonnes œuvres ne servent à rien. Et en bas de l'écran à droite, là, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Ça, c'est vraiment la base. La base de notre bonté, la base de notre foi, mais c'est à partir de là que Dieu peut nous transformer, n'est-ce pas? Alors, qui parmi nous Quand Jésus dit, si nous disons, je ne peux pas m'identifier au jeune homme riche, parce que je ne suis pas riche, mais qui n'a jamais pensé quand même, quand quelque chose nous arrive, je mérite quand même mieux que ça. Ah, là, ils m'ont plutôt maltraité. Quand même, moi,
comment ose-t-il?
Vous avez déjà été blessé parce que on n'a pas pensé à vous, parce qu'on vous a oublié l'anniversaire. Et je me souviens, quand j'étais enfant, on a l'habitude de recevoir les cadeaux, n'est-ce pas, là, quand tu es enfant. Je me souviens d'un anniversaire que j'avais bien préparé et je disais à maman, voilà, je vais mettre mes cadeaux tout le long du mur, là. Et ma mère me dit, mais attention Christophe, parce que tu ne sais pas encore ce que tu vas recevoir. C'était le premier anniversaire où j'avais des cartes et un peu d'argent, mais il n'y avait pas de cadeaux à emballer. Et j'avais tout mon mur préparé et il n'y avait rien. Et j'étais enragé. Je dis, mais c'est pas normal. C'est quand même mon anniversaire. Et je n'ai pas de cadeaux. Si, j'en avais, mais d'une autre forme. Mais combien de fois nous réagissons comme cela, n'est-ce pas? Et quand nous nous justifions, par exemple, si nous disons, je suis quand même quelqu'un de bien, moi, contrairement à Hippolyte, par exemple, pour prendre l'exemple du pasteur Pierre de la semaine dernière. Ces pensées ne font pas de nous de mauvaises personnes, elles font de nous des personnes humaines, avec un besoin légitime d'être valorisées, oui, d'être remerciées, parfois d'être encouragées, mais elles révèlent aussi quelque chose de profond, c'est que nous voulons être la source de notre propre valeur. Et Jésus nous pose la question, et si tu n'avais pas à l'être? Nous avons tous le réflexe de nous justifier. Et nous n'allons pas jusqu'à dire que nous avons accompli tous les commandements depuis notre jeunesse, comme le jeune homme riche, mais nous allons dire, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas si mauvais que ça. Ça ressort, n'est-ce pas? Je mérite qu'on me considère. Dieu seul est bon, et c'est une bonne nouvelle. Parce que si personne n'est bon sauf Dieu seul, quel espoir reste-t-il pour nous? Vous regardez dans l'autre sens. Si Dieu seul est bon, alors la bonté existe vraiment. Pas chez nous, pas pleinement, pas chez notre voisin, mais chez Dieu. La bonté n'est pas une illusion. Et combien de fois nous sommes blessés dans la vie parce que la vie n'est pas ce que nous avions souhaité, n'est pas ce que nous avions pensé. Mais c'est là où la bonté même vient en forme humaine et vient jusqu'à nous. La bonté a un visage, une adresse, une personne. Cette bonté s'est faite en main. Si elle a couru dans les rues de Galilée, elle a regardé l'homme riche avec amour avant même qu'il réponde. Alors, la bonté est accessible. Et donc, Marc 10, 21, nous lisons, Jésus regarda le jeune homme riche avec amour et lui dit, il te manque encore une chose. Ah, c'est la partie difficile, n'est-ce pas? J'ai déjà eu quelqu'un me dire, mais j'ai quand même assez de biens matériels. Est-ce que Dieu est en train de me dire aussi, vends tout ce que tu as et dans l'eau pauvre? Peut-être, mais pas nécessairement. Parce que peut-être pour toi, ton plus grand trésor auquel tu t'attaches n'est pas tes biens matériels, mais c'est autre chose. Et là, Jésus est en train de dire, mais la bonté, c'est chez moi. Ça, cette chose sur laquelle tu t'appuies, tu peux t'en passer. Moi, je serai toujours là. Nous l'avons chanté aussi tout à l'heure, n'est-ce pas? Toujours présent. Jésus voit ce qui manque chez moi, chez toi, et il nous aime quand même. C'est ça la bonté divine. Elle ne conditionne pas son regard à notre performance. Romains 5, 8 nous dit, « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça me rappelle le soir où je suis venu au Seigneur en lisant la Bible pour prouver à d'autres qu'elle était fausse. Et je suis tombé sur l'histoire de la crucifixion de Jésus. Et je vivais très loin de Dieu. Je combattais les chrétiens à l'époque pour essayer de leur prouver qu'ils avaient tort. Mais ce soir-là, et en pensant à tout ce que j'avais fait contre Dieu, contre Jésus, contre les chrétiens, et que j'ai lu l'histoire de Jésus, mort sur la croix, j'ai éclaté en larmes. J'ai dit, mais comment c'est possible avec tout ce que j'ai fait contre toi, que tu m'aimes comme ça? La bonté venue jusqu'à moi, dans mon appartement de Londres à l'époque. Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est la logique renversante de l'Évangile, n'est-ce pas? Si le salut était réservé aux bons seuls, seuls les parfaits auraient une chance. Et comme personne n'atteint la bonté absolue, personne ne serait sauvé. Mais Jésus dit l'inverse. C'est précisément parce que personne n'est bon que Dieu ne fait pas de compétition de vertu. L'accès à sa grâce ne se mérite pas, il se reçoit. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. J'ai mis à l'écran impossible à mériter, mais possible à recevoir. Impossible à mériter, mais possible à recevoir. C'est le comble, n'est-ce pas, d'essayer de mériter la grâce. Parce que par définition, on ne peut pas. Donc, si nous avons tendance à penser que le christianisme, c'est être de bons chrétiens, nous avons tout faux. Et Jésus lui-même le dit dans ce passage. Ce n'est pas une religion de performance morale. C'est une invitation à renoncer à cette performance et à recevoir ce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Et là, je pose une question délicate et que nous posons souvent. Je pense, qui est vraiment chrétien? Et des fois, nous allons peut-être dans notre groupe de maison, où nous allons être dans un petit groupe et nous allons parler de tel ou tel. Et on va dire, mais tu crois qu'il est vraiment chrétien? Je ne sais pas, tu l'as vu l'autre jour quand il a fait ceci? Ah, non, peut-être pas. Hein? Il est peut-être en train de dire la même chose de nous, n'est-ce pas? Qui est vraiment chrétien? Et nous, évangéliques, nous résumons très simplement que la porte d'entrée, c'est la nouvelle naissance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. si on passe par là, ça y est, on est de vrais chrétiens. Et puis, après, si on s'engage bien, on va faire l'école de disciples à CBM Campus pour être de vrais chrétiens et encore de meilleurs chrétiens. On va, oui, parce qu'on va s'engager pour être de vrais disciples. Puis nous avons d'autres qui se disent chrétiens et qui ont un autre critère. Dans la tradition catholique et d'autres, l'appartenance au Christ passe d'abord par les sacrements et le baptême en premier. Et donc, on baptise les bébés et un peu avec l'idée que il faut les baptiser le plus vite possible pour le cas où quelque chose leur arrive, parce qu'au moins comme ça, ils seront en sécurité. Ils seront sauvés parce qu'ils sont de vrais chrétiens, ils étaient baptisés. On reconnaît aussi le chrétien par ses fruits visibles. Et ce critère est aussi enraciné dans la culture. La foi sans les œuvres est morte. Mais il peut glisser vers une comptabilité des mérites. Combien d'actes bons et je fais. On a tendance à avoir une balance où on pèse les bons contre les mauvais, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai fait plus de choses bonnes que de mauvaises? On ne va jamais s'en sortir comme ça. Et avec nos deux critères, nos deux portes d'entrée, nous avons un peu de vrai et un peu de faux. Parce que chez nous aussi, nous venons de faire des baptêmes, nous en faisons gloire à Dieu pas mal, et nous entendons des témoignages glorieux de changement. Et ça, c'est justement l'une des choses qui nous aide à dire, ça, c'est un vrai chrétien, n'est-ce pas? Mais nous connaissons tous aussi des gens qui ont marché avec Dieu. Et puis, ils ont vécu des travers dans leur vie. Ils sont peut-être devenus amers. Et ils laissent tout tomber. C'est compliqué, mais ô combien compliqué de savoir qui est vraiment enfant de Dieu. Vous ne croyez pas? Nous avons, oui, par notre fruit, notre manière de vivre, notre engagement, ce sont de bons témoignages que nous sommes sur la bonne voie. Mais nous pouvons nous tromper. Et de l'autre côté, nous voyons des gens qui ont grandi dans l'Église, qui ne se sont jamais posé de questions, qui servent Dieu, mais qui ne parlent pas de la nouvelle naissance. Ils ont raté quelque chose. Mais s'ils sont en train de marcher, certains, dans l'amour de Dieu, et ils n'ont pas quitté la bonne voie, comme certains d'entre nous la quittons. Heureusement, c'est ni toi ni moi qui va dire au dernier jour, toi tu entres et toi non. C'est Dieu seul qui sait, n'est-ce pas? C'est Dieu seul qui est juge. Toutes nos pratiques, toutes nos doctrines sont essentielles dans notre marche. Nous essayons de faire le tri, mais c'est Dieu seul, en fin de compte, qui décidera. Et puis j'ai mis, voilà, ce que Dieu regarde. C'est aimer son prochain, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer son prochain comme soi-même. Et de devenir de plus en plus le reflet de Christ. Nous tous, de Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Où en sommes-nous aujourd'hui dans notre reflet de Jésus à travers nos vies? Qu'est-ce que d'autres pensent quand ils nous rencontrent? Est-ce que nous sommes de bons témoins par notre manière de vivre? Quelle que soit notre confession, si nous marchons à la suite de Jésus pour être de plus en plus comme lui, alors Dieu transforme nos cœurs. J'ose dire, je pense à certains que je connais, qu'ils sont nés de nouveau sans le savoir. Personnellement, je me souviens pas du jour de ma naissance, je ne sais pas pour vous. Hein. J'étais bien là, mais je n'en ai aucun souvenir. Ma nouvelle naissance, oui, puisque c'est venu bien plus tard. Mais l'essentiel n'est pas de pouvoir mettre une date sur votre conversion. L'essentiel, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, je marche à la suite de Jésus. Je veux qu'il soit le premier dans ma vie. Et que s'il y a des choses, des richesses ou autre chose, même des personnes qui viennent devant lui, Seigneur, je veux te remettre à la première place. Parce que je sais que pour l'éternité, ma place auprès de toi dépend de ce que toi tu as fait et non pas de ce que moi j'ai fait. Et si je fais cela, moi j'entre au Seigneur, au ciel par la grâce. Mais je veux arrêter de juger les autres et de dire, bon, il n'y est pas encore. Lui, pas beaucoup d'espoir pour lui. Lui, bon, Seigneur, à ta grâce. Non, que nous puissions nous entraider, où que nous en soyons, à marcher de l'avant, à compter sur la grâce de Dieu et devenir de mieux en mieux de vrais disciples de Jésus. Pas bon en nous-mêmes, mais bon en lui.